Le Seigneur, pour le moins que l'on puisse dire, n'a pas fait d'école de commerce et ne sait pas parler avec douceur, puisqu'il nous provoque terriblement dans l'évangile qui nous est donné ce soir. Il nous provoque en nous disant qu'il faut lui préférer, il faut préférer sa personne à nos parents, nos enfants, il faut prendre sa croix, il semble qu'il faille perdre sa vie. Bref, autant de paroles qui seraient corrigées dans un bulletin de communication professionnel d'aujourd'hui. C'est que le Seigneur ne cherche pas à nous embobiner, le Seigneur ne cherche pas à nous plaire, le Seigneur cherche à nous sauver, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voyons, pour entrer dans l'intelligence de cette écriture difficile qui nous est donnée, essayons de voir deux points qui peuvent l'éclairer. Tout d'abord, la radicalité de la suite du Christ et ensuite la filiation divine. Tout d'abord, la radicalité de la suite du Christ. Et oui, suivre le Christ, ce n'est pas suivre le monde. C'est une évidence qu'il faut rappeler et on aimerait bien sans cesse pouvoir finalement compromettre un peu et être quand même un peu vraiment chrétien, mais quand même un peu vraiment pas chrétien, c'est-à-dire être quand même du monde. Eh bien, ce n'est pas possible. Il y a une irréductibilité entre les choses du monde et les choses de Dieu. Et l'éternité sous laquelle nous regardons tout nous fait voir ce monde différent de ceux qui le regardent sous la lumière matérialiste finie de leur vision sans Dieu. Ce n'est pas pour faire de la peine à quiconque, ce n'est pas pour rejeter quiconque que le Christ dit ça, et nous non plus. C'est pour annoncer que notre vision est une vision d'éternité et qu'elle ne se conjoint pas d'une vision de finitude. Ce n'est pas possible. Suivre le Christ, le servir en premier, comme dit Jeanne d'Arc dans son procès, Dieu premier servi, c'est suivre celui qui nous fait vivre. C'est parce que nous connaissons notre Créateur, que nous connaissons la fin de notre vie, la fin c'est-à-dire le but de notre vie, que c'est lui, que c'est cette fin que nous voulons servir. Alors évidemment, il ne s'agit pas de détester sa famille. Nous lisons l'Écriture dans son entièreté, nous ne sommes pas des fondamentalistes qui diraient « Ah, alors il ne faut pas aimer son fils ou sa fille ». Ça serait ridicule. Il ne faudrait pas aimer ses parents, sa mère, par exemple. Nous avons lu dans le Décalogue qu'il faut honorer son père et sa mère. Mais ce n'est pas parce qu'on lit dans l'entièreté qu'on va oublier cette parole forte. Il s'agit de choisir, d'ordonner notre vie dans l'ordre, de mettre Dieu en premier. Et alors, chaque chose dans ce monde trouve sa place. Ce n'est pas la même chose de dire à quelqu'un, voilà, je t'épouse, alors je vais parler comme un homme, mais ça marche dans les deux sens, hein. Je t'épouse parce que tu es belle, je t'épouse parce que c'est bien que je ne sois pas tout seul, je t'épouse parce que je pense qu'on pourrait s'entendre, et voilà. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un projet humain. Ce n'est pas le projet divin. Le projet divin, c'est je peux te trouver belle, je peux te trouver intéressante, je peux te trouver utile, je peux te trouver tout ce que vous voulez, mais je trouve en toi que tu es mon chemin vers Dieu. J'ai trouvé le sens par où doit passer ma vie, car je vais à Dieu et je pense que c'est avec toi que je l'atteindrai. Voilà, c'est pas la même chose. Choisir Dieu en premier n'est pas détester le monde, c'est le mettre à sa juste place. Cela vaut pour la vocation sacerdotale. Parfois, j'accompagne pas mal de vocations. Hein. Alors, est-ce que tu veux être prêtre? Est-ce que ça te fait plaisir? Ah oui, bon. Est-ce que tu penses que tu vas être heureux? Ah oui. Ah oui. Est-ce que c'est vraiment pour toi que tu le fais? Ah oui, alors ne le fais pas. Parce que ce n'est pas pour ça que tu es prêtre. Tu es prêtre pour servir un peuple, pour l'amener vers Dieu, célébrer les sacrements, lui faire découvrir Dieu. Toute vocation, toute chose en ce monde doit être vue en vue du but final que nous poursuivons. Cela donne à ce monde une autre dimension que celle que nous pourrions espérer humainement. Voilà ce qui nous est demandé, ne rien préférer à l'œuvre de Dieu, d'abord se livrer. Mais vous qui venez à la messe le dimanche, c'est ce que vous faites. Vous le savez, et pendant ce temps de vacances, ça sera la même chose. Vous ne préférerez rien à l'œuvre de Dieu. Non pas que vous n'aimiez pas vous baigner, que vous n'aimiez pas marcher en montagne, que vous n'aimiez pas faire la fête avec des amis, voir votre famille, non. Mais que tout ça, c'est parce que vous aimez Dieu et que d'ailleurs, vous irez à la messe le dimanche. Évidemment. L'œuvre de Dieu, cette phrase « ne rien préférer à l'œuvre de Dieu », c'est la devise des bénédictins. Et l'œuvre de Dieu, c'est la liturgie. La liturgie des heures, qu'ils récitent toute la journée, et la messe. Si nous ne voulons rien préférer à l'œuvre de Dieu, c'est pour ne rien préférer à Dieu. Et bien entendu, toute notre vie y est conviée. Il ne vous est pas demandé pour venir à la messe le dimanche de rejeter votre famille, de ne pas aimer vos amis, de refuser les invitations à déjeuner ou à dîner. Non, il vous est demandé de l'ordonner. Ah oui, je viendrai chez vous dimanche, mais je viendrai qu'à midi et demi parce que je vais à la messe de 11h. Voilà ce qui nous est demandé. Ne pas oublier que Dieu est premier et que cela remplit toute notre vie et donne un sens profond à toutes les relations de notre vie. Cette radicalité de l'appel du Christ n'est pas valable que pour les religieux ou les moniales ou même seulement pour les prêtres, elle est pour tous. Vous êtes appelés à devenir saints comme votre Père céleste est saint et cela ne se fera que dans un don radical de vous-même qui se conjoint de votre propre vocation et de la manière dont vous vivez votre relation à travers ce monde avec Dieu. Il ne nous est pas demandé d'avoir tous, c'est pas parce que je dis que l'appel est radical que nous allons tous vivre avec une robe de bure et des chaussures tressées. Hein ? Non, nous allons vivre selon notre propre vocation, mais radicalement avec Dieu. Il vous faut emmener le bon Dieu partout. Bien sûr, vous venez ici chercher, vous ressourcer, vous venir à la source divine où vous allez puiser la présence du Christ dans l'Eucharistie. Mais ce n'est pas le but, ce n'est même pas le but de votre vie. Le but de votre vie est de vivre avec l'Eucharistie partout où vous allez retourner, chez vous ce soir, demain, en partant sur la route, en partant en vacances, en allant travailler, en allant vous reposer, où que vous alliez, d'y partir avec le bon Dieu. C'était mon premier point, cette radicalité de l'appel du Christ qui ne souffre pas de concurrence. Mais c'est extraordinaire, évidemment, car ce qui nous est donné est à la hauteur de ce que nous livrons. C'est la filiation divine. Cette intimité avec Dieu que nous gagnons par le baptême. Vous l'avez entendu dans la lecture de saint Paul aux Romains, nous sommes plongés avec le Christ dans la mort. C'est difficile parfois pour les prêtres, au moment du baptême où tout le monde est content, tout le monde est ravi de savoir qu'on va baptiser un petit enfant et que tout est bien. Et alors, le prêtre doit dire, et voilà, vous allez être baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Naturellement, les parents ont envie de dire, bon, monsieur l'abbé, vous êtes gentil, mais vous nous parlerez de ça aux funérailles, vous nous parlerez de ça un autre jour, parce qu'aujourd'hui, c'est la vie. Oui, mais notre baptême nous configure au Christ, et avec lui, nous sommes déjà passés dans la mort, c'est pour ça que nous sommes plongés dans l'eau de la mort, hein. L'eau stagnante, c'est l'eau de la mort, pour ressusciter avec lui dans la vie, dans l'eau de la vie qui coule, dans cette vie qui s'écoule, et dans notre vie qui est avec Dieu déjà maintenant. La vie éternelle, c'est tout de suite. Sinon, on n'aurait rien à faire ici. Hein. Si vous êtes venu ici, c'est pour venir goûter un instant les cieux qui s'ouvrent et vivre de votre vie éternelle. Vous ne perdez pas votre temps, vous inscrivez tout votre temps, toute cette semaine, dans le temps éternel de Dieu. Voilà ce qui nous est donné dans le Christ. Une fraternité incomparable. J'ai été configuré au Christ, vous aussi. Nous sommes alors liés de manière indéfectible à ce corps mystique du Christ que nous sommes, et l'aspersion du début de la messe signifie cela. C'est le baptême qui nous plonge tous ensemble dans ce corps du Christ qui fait de nous, non pas des alliés, non pas des amis politiques, des amis de classe sociale, de je sais pas quoi, ou d'enfance, ou voilà, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, ça existe, mais ce qui nous unit profondément, infiniment, c'est le Christ. Le Père Galès, je ne le connais pas. Si, j'ai lu quelques ouvrages, mais Mais sinon, je ne le connais pas. Mais ça suffit, il est prêtre de Jésus-Christ, alors il arrive. Et puis, si un chrétien vient du bout du monde ici, ça arrive souvent, assiste à la messe, communie, on ne le connaît pas non plus. Mais ce n'est pas grave, il fait partie du corps mystique du Christ. Voilà ce que nous gagnons dans cette radicalité de la suite du Christ, où nous sommes livrés entièrement à lui. Voilà la récompense que nous visons, c'est de vivre éternellement avec le Christ. Car nous sommes identifiés à lui, nous sommes comme d'autres Christ, et j'ose le dire, comme le Christ lui-même. Et oui, ma main c'est moi, et bien moi c'est le Christ, c'est-à-dire que chacun de nous est un membre de ce corps qui est répandu jusqu'à la fin du monde et aux extrémités de la terre, et ce corps c'est nous qui se répand. Évidemment, chacun ne peut prétendre à être lui seul le Christ, car nous ne sommes pas l'Église, nous sommes les membres du corps du Christ, ce n'est pas la même chose, c'est lui, cette Église répandue à travers le monde. Mais si vraiment vous vous unissez à lui, vous avez cette noblesse incroyable, non seulement de le représenter, et le monde vous le dit souvent, « Toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu penses ? Toi, c'est comme ça que tu fais. » Mais non seulement nous le représentons, mais nous le sommes vraiment. Voilà, réjouissez-vous durant ces temps où je vous invite à faire une récollection de votre année, de votre vie, de ce que nous avons vécu, pour voir comment nous pouvons le vivre dans le Christ, l'offrir et faire de notre vie entière une offrande à cette mission qui se répand parmi nous jusqu'à la fin du monde pour que le monde ait la vie. Ce que nous disons ici est à crier sur les toits. Nous ne sommes pas une secte qui garderait secrètement quelque chose pour ses initiés. Nous sommes les détenteurs d'une promesse qui a vocation à s'offrir au monde entier, et il vous appartient de l'offrir vraiment, de l'être vraiment, d'accueillir le Christ dans votre vie, cette fraîcheur d'eau vive qui vous vaudra de connaître le donateur premier, de connaître la fin de votre vie, Dieu lui-même. Ainsi soit-il.